bonjour. Nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Evelyne Pieler pour son ouvrage Mousquetaire et Misérable. Journaliste au Monde Diplomatique. Je suis ravi de vous recevoir pour ce très beau livre Mousquetaire et Misérable. Au sujet de ce livre, Philippe Lançon a écrit dans Charlie Hebdo Mousquetaire et Misérable, quel beau titre, un panache rouge, traite de littérature et de combat. Celle est celui du peuple français, ce fantôme bien vivant qui macère entre souvenir et avenir à travers la destinée de deux romans qui, au XIXe siècle et dans le monde, l'ont le plus incarné. Les trois mousquetaires de Dumas et Les Misérables de Victor Hugo. Le premier est publié en feuilleton en 1844, le second en plusieurs tomes à partir de 1862. Vous écrivez « Dumas et Hugo sont sans doute les deux seuls écrivains de leur génération à être vraiment nés de la Révolution, de la Révolution même, vraiment, pas seulement biographiquement, et en avoir accompagné les résurgences, en avoir pris au sérieux l'exigence du monde nouveau qu'elle avait fait apparaître. C'est ce qui va leur permettre de transformer les rêves tués, de les ressusciter en histoires. Des histoires à la gloire de l'esprit des barricades. » Alors ce livre est une réflexion sur deux grands romans populaires, ce qui dans sous votre plume signifie autre chose et davantage que des livres qui rencontrent un succès populaire. Ils sont, et je cite votre conclusion, « la rencontre entre le peuple, celui qui se reconnaît comme dépossédé, comme force de combat, et la cristallisation de ses puissances et de ses contradictions dans une histoire qui, dans le même temps, l'invente. Mais cela ne se fait pas tout seul, et il aura fallu trois générations pour que se rencontrent le peuple et ses deux grands écrivains. » Est-ce que cette rencontre est la question centrale de votre livre ?
Je crois, oui. Parce que c'est vraiment parti d'une constatation, interrogation assez simple et banale. Ok, mais en fait, ces deux romans-là, ils sont connus dans le monde entier. Vraiment, c'est une singularité absolue. Notamment par des gens qui ne sont absolument pas délettrés, qui sont même parfois limite analphabètes, mais qui se sont appropriés ces deux histoires. Donc, tu sais, comment c'est possible ? Alors, on connaît tous l'histoire des ouvrières à Cuba, qui roulent les cigares, pendant que quelqu'un leur lit une histoire. C'est quand même assez magnifique. Et en particulier, Dumas. D'où Monte Cristo,
ouais, et les cigares Monte Cristo. Ouais.
Mais là, il y a quelque chose qui est extrêmement troublant. Surtout si... Enfin, pas surtout, mais enfin, on peut doubler ça de la remarque que Dumas est vraiment considéré comme un auteur sympa, mais plutôt juvénile. Et là, il ne s'agit pas de populaire, mais ce serait quasiment popu. Et quant à Hugo, en ce qui concerne les couches moyennes et supérieures, pendant très longtemps, il a été considéré comme un génie, certainement, mais quand même plutôt sot, verbeux, et relevant, en fait, de la Troisième République, avec tout ce que ça peut avoir de mort. Donc les deux ensemble, ça commençait à devenir vraiment intéressant d'essayer de comprendre ce qui avait produit cette rencontre, quasi, on peut dire quasi spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de missionnaire pour aller expliquer à tous ces peuples que Hugo et Dumas, c'était pour eux.
Non, ils l'ont compris, et vous dites un peu partout. Vous nous proposez donc un chemin à travers trois révolutions, d'autres événements historiques de moindre ampleur, et de nombreux grands auteurs du 19e, les deux que nous avons cités, mais aussi Lamartine, Musset, Stendhal, Baudelaire, Flaubert, Zola, et vous poussez même jusqu'au 20e siècle avec l'inattendu Maurice Leblanc. On va reprendre les choses chronologiquement, et vos titres de chapitres sont parfaitement faits pour ça et structurent extrêmement bien le livre. Le chapitre 1 s'intitule « La révolution invente le peuple » et là vous expliquez un peu votre projet par des raisons personnelles et familiale. Vous expliquez votre attachement à ces deux livres. Alors d'où vient-il cet attachement?
Oui, c'est un peu de part un hasard. C'est-à-dire que, d'une part, ma mère, qui n'était pas une dame qui avait fait des études, qui tenait un café, qui l'ouvrait très tôt le matin, donc qui sortait évidemment très très peu, avait quand même décidé qu'il fallait absolument que je voie le film Les Misérables. Alors je ne sais pas duquel elle parlait, probablement celui de Gabin.
Oui.
En tout cas, elle s'était trompée de jour, donc on a vu autre chose, et je n'ai jamais vu Les Misérables avec Gabin. Enfin, ça m'était resté quand même. Et quelques temps après, je suis tombée assez gravement malade, donc j'ai eu une convalescence super longue. Et il ne me fallait aucune contrariété, c'est fait un moment génial dans ma vie. Et donc, comme le seul truc qui m'intéressait, c'était les livres, ma mère avait trouvé, alors, c'était Le Comte de Monte Cristo, énorme, hein, sur papier journal, le truc pas possible, mais que j'ai toujours, qui tombe en miettes. Et elle avait, de façon un peu étonnante, elle avait des Dumas reliés, qu'elle avait dû, je ne sais pas, récupérer dans un meuble quelconque, qu'elle avait gardé. Et donc j'ai lu le Dumas très jeune, là comme un don, d'une certaine manière. Et elle avait également Les Misérables, la petite Nelson, absolument ravissante, sur papier Bible, que j'ai lu aussi très très jeune. Et je me rappelle les moments un peu durs, notamment la bataille de Waterloo, où j'ai sauté allègrement, quand on a 8 ans, bon, là, voilà, tout à fait le droit. Mais après que je l'ai relu, je me suis dit, ça, c'était une erreur, c'est quand même déterminant. Donc, il y a cette découverte, en fait. L'attachement, il est venu comme ça, mais la découverte, c'est grâce aux quelques livres et amour de ma mère.
C'est ça. D'ailleurs, vous citez aussi parmi ses souvenirs d'enfance, ça m'a fait plaisir, Le Dictateur de Chaplin, même si vous dites que bon, vous n'avez pas forcément compris grand-chose la première fois.
Ah non, on peut dire que je n'ai rien compris. Elle y tenait absolument aussi, ça c'est intéressant de ce point de vue. Mais comme elle ne m'a rien expliqué, je suis restée captivée, mais dans l'énigme.
C'est ça. Alors pourtant, oui, ces deux livres, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, sont souvent dépréciés. Dans le premier chapitre, vous citez une enquête menée par Télérama auprès de je ne sais pas, là, on peut dire la République des Lettres, ou,
oui.
Bon, voilà, et qui ne met pas spécialement Dumas et Hugo à l'honneur.
Non, c'est pas chic. C'est définitivement pas chic. Ça peut être sympa pour Dumas, mais ce n'est pas chic. Non, non, en général, ils préfèrent Flaubert quand même, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait Proust.
Oui, dans le cadre de Télérama. Et vous parlez d'un patrimoine populaire. Alors, vous y rangez, évidemment, donc, les Trois Mousquetaires et Les Misérables, et vous envisagez d'y ranger aussi Cyrano de Bergerac, avec des réserves. Et puis, alors, plus de réserves encore pour Don Quichotte, dont la figure est pourtant...
Oui.
Partagé en référence commune, donc ce n'est pas exactement votre critère, en fait.
Non, évidemment, Quichotte, c'est une figure immense, et, bon, encore plus évidemment pour les hispanophones, mais quand même, je pense que là, c'est vraiment ultra partagé, mais ça ne veut pas dire que le peuple se l'a approprié, c'est autre chose. Et, bon, indépendamment du fait, ou alors c'est lié, je ne sais pas, que c'est un perdant quand même. C'est un rêveur, c'est un poète, c'est un perdant. Et c'est vraiment le couple qui... Et Quichotte, c'est quand même le héros des causes perdues. Et je trouve très bien, moi, que le peuple ne soit pas approprié. Et Cyrano, c'est autre chose. Je ne sais absolument pas comment il est connu à l'étranger. Je ne sais pas. En France, c'est une figure connue, très connue, sur peu de choses, en réalité, sur une... Les jeux de mots, le panache, et c'est quand même... Cyrano, je ne sais pas pour être désagréable, mais sans Hugo, ça n'aurait pas existé. C'est quand même... Je ne dis pas que c'est une dégradation, mais pas loin. Comment dire, c'est une parodie sans vouloir l'être, d'une certaine façon. Et c'est aussi une figure, malgré tout, perdant. Mais je pense que ce qui est pris, c'est le panache.
C'est ça. Alors, une génération qui manquait pas de panache, c'est celle à laquelle vous consacrez le deuxième chapitre, donc que vous appelez les fantômes d'une jeunesse songeuse. Là, c'est la génération romantique, ce sont les Musset, les Vigny, dont vous écrivez que ce sont tous des enfants de pères qui ont connu la Révolution. Donc, c'est peut-être une des choses les plus marquantes pour cette génération. Alors, qui sont ces gens? Enfin, j'en ai cité deux. Et pour autant, sont-ils révolutionnaires?
Ah, c'est une bonne question. Je ne remercie pas de me l'avoir posée, elle est compliquée. Ils sont tous effectivement les fils de gens, de parents qui ont eu à voir en direct avec la Révolution, qui l'ont faite, qui l'ont combattue, qui ont combattu à ses côtés, etc. Bon. Ça, c'est une chose. Eux, ils arrivent après. C'est-à-dire que tout est fait des faits. Et ça, ils peuvent pas. Qu'ils soient révolutionnaires ou non, ils sont révolutionnés, en réalité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, qui est encore jeune, ça n'a pas oublié. De toute façon, ça ne sera jamais oubliable. Tout le 19e, on ne se remettra pas de ce qu'a transformer la Révolution. Sur la Révolution, ce ne sont pas des... Ce n'est pas une image d'Épinal, sans jeu de mots. C'est le bouleversement de toutes les hiérarchies. Et ça, ils sont dedans. Donc même si, politiquement, disons, ils sont réactionnaires ou conservateurs, ils n'empêchent, ils portent ça. Ce qui fait que les jeunes gens qui voudront devenir des hommes de lettres, ils seront dans ce cadre-là, c'est-à-dire où tout a été bouleversé, et ils le prennent. Après, ils se débrouillent avec, mais ils le prennent. Ils ne peuvent pas être d'un autre temps.
C'est ça, et on observe au passage que Hugo, comme Dumas, sont nés en 1802, ce qui est une date de naissance assez extraordinaire quand même.
Oui.
Et en même temps, c'est assez frappant. Alors, vous parliez aussi des fantômes. Donc, vous dites une jeunesse songeuse est marquée par des fantômes qui sont des figures qui planent un peu au-dessus de ces jeunes gens. Et vous en citez deux, alors, qui sont Lord Byron et Napoléon. Alors, Byron, lui, il incarne quoi pour ces jeunes gens?
Oh, c'est une rockstar.
C'est ça.
Énorme. C'est un modèle.
Ouais.
C'est un modèle, c'est une inspiration incroyable. Il faut dire que c'est fantastique quand même. Byron, ce gars qui est boiteux. C'est important le côté boiteux. Hein. C'est à la fois côté diable, le bancal, un déséquilibre, ce qui sera une grande caractéristique quand même des romantiques. Un jeune homme très bonne famille. Après tout, il est lord. Qui va devenir très très riche en étant une découverte vraiment d'un coup, quoi. Et qui prend le parti antagoniste à ses intérêts de classe. Bon, on fait pas mieux. Bah. Alors, il y a le Byron, comment dire, un peu magazine féminin, c'est-à-dire il est très joli, il se travaille le côté très joli, et c'est vraiment un look. Et il a des histoires d'amour ou de sexe qui font jaser. Bon. Donc, il y a tout ce côté-là. Il y a le côté renouveau total de la poésie lyrique anglaise, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et il y a ces choix politiques, tant en Angleterre même, que quand il va décider de soutenir tout ce qu'il peut soutenir comme porteur d'émancipation, puisque quand même, il mourra en Grèce. Il a mis une grande partie de sa fortune pour soutenir l'indépendance grecque. Il va voir ce que ça donne. Bon, il meurt. Donc c'est... Là, on a vraiment à la fois, vous voyez, la révolution poétique et la révolution politique. Donc oui, c'est une figure majeure. Et il se lit énormément en France. Aujourd'hui, plus personne ne connaît Byron. J'étais enchantée d'entendre que Marianne Faithfull chante des poèmes de Byron. Mais sinon, personne ne connaît. Alors que ça a été énorme. Quant à Napoléon, bon, il n'y a même pas à commenter. Quoi.
Non.
C'est immense. Hein.
C'est ça.
Donc, qu'on soit pour, qu'on soit contre, peu importe, c'est quelque chose d'immense. Et ça a quand même été pris comme le porteur des idéaux de la Révolution française dans toute l'Europe.
C'est ça. Alors, justement, on va peut-être, parce que vous citez à plusieurs reprises Pierre-Jean de Béranger dans le livre, et on va écouter, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Les Souvenirs du Peuple, dans une version assez étonnante, une version récente de Jean-Louis Murat. Et nous sommes donc sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Evelyne Pieler, et nous écoutons un petit morceau de Monsieur Béranger.
On parlera de sa gloire sous le chaume bien longtemps, l'humble toit dans 50 ans ne connaîtra plus d'autre histoire. Là viendront les villageois dire alors à quelques vieilles par des récits d'autrefois, mère abrégée notre veille. Bien dit-on qu'il nous est nuit, le peuple encore le révère, oui, le révère. Parlez-nous de lui, grand-mère. Grand-mère, parlez-nous de lui. Parlez-nous de lui, grand-mère. Grand-mère, parlez-nous de lui. Mes enfants, dans ce village, suivi de rois, il passa. Voilà bien longtemps de ça, je venais d'entrer en ménage, à pied grimpant le coteau, où pour voir je m'étais mise. Il avait petit chapeau avec redingote grise. Près de lui je me troublais, il me dit bonjour ma chère, il vous a parlé grand-mère, il vous a parlé. Il vous a parlé, grand-mère, grand-mère, il vous a parlé. Mais quand la pauvre Champagne fut en proie aux étrangers, lui bravant tous les dangers, semblait seul tenir la campagne, un soir tout comme aujourd'hui, j'entends frapper à la porte. J'ouvre, bon Dieu, c'était lui, suivi d'une faible escorte. Il s'assoit où me voilà, me disant, oh, quelle guerre. Il s'est assis là, grand-mère, grand-mère, il s'est assis là, il s'est assis là, grand-mère, grand-mère, il s'est assis là. J'ai faim, dit-il, et bien vite, je sers piquette et pain bis. Puis il sèche ses habits, même à dormir le feu l'invite. Au réveil, voyant mes pleurs, il me dit « Bonne espérance, je cours de tous ces malheurs, sous Paris, venger la France. » Il part. Et comme un trésor, j'ai depuis gardé son verre. Vous l'avez encore, grand-mère, grand-mère, vous l'avez encore, vous l'avez encore. grand-mère, grand-mère, vous l'avez encore. Le voici, mais à sa perte.
Alors, nous abrégeons très légèrement cette version qui n'était pas comme je l'avais cru, celle de Jean-Louis Murat, donc une version plus scolaire, plus traditionnelle. Et Béranger était vraiment un des comment dire, comment on pourrait dire ça, un des chansonniers, un des personnages très très en vue de ce début milieu de 19e siècle, très Dumas aimait beaucoup. Et vous citez notamment Lettre à mes amis devenus ministres, qui est une très belle chanson enfin très beau poème chanté de Béranger. Mais là, on va revenir à cette génération de romantiques qui dans votre chapitre 3, donc, que vous appelez les salopards et les héros, affrontent la révolution de 1830. Et cette révolution de 1830, c'est vraiment celle de Dumas. Hein. Enfin, c'est un de ses grands moments, une des grandes heures de sa vie. Alors, de quelle manière est-ce que cette révolution s'inscrit dans votre récit et dans l'évolution peut-être de ce qui va permettre la rencontre entre ces deux grandes œuvres et le peuple?
Bon, c'est différent pour les deux. C'est à 1830, c'est la révolution de la jeunesse.
C'est ça.
Vraiment. C'est beau d'ailleurs qu'on les appelle les Trois Glorieuses,
oui. Hein,
là, comme les Trente Glorieuses. Là. Après, ouais, bon, ce sont des jeunes gens qui la font, beaucoup d'Entello, beaucoup de... Enfin, les polytechniciens sont en première ligne, ce qui paraît étrange aujourd'hui, mais enfin, elles ont été pendant longtemps des jeunes gens assez subversifs, hein, comme ils étaient armés, évidemment, ils étaient dangereux. Ça se passe très vite, c'est vraiment 3 jours. Oh là, ça monte les barricades, ce qui renoue avec une tradition qu'on aurait pu croire oubliée. Il y a une espérance, ce qui est très beau, c'est le côté, ça y est, on va y arriver. On va enfin avoir la République, renouer avec les promesses anciennes. Ils ne sont pas sur la République sociale, ils sont vraiment sur... la République, une promesse d'égalité, d'égalité de principe, quoi. Et Dumas va être effectivement à fond, parce que Dumas, il fait partie de au moins 2 cercles. Il y a le cercle des jeunes gens de lettres là, qui veulent transformer les codes littéraires et qui veulent virer les vieux. Il y a quand même ça, l'ensemble du vieux, d'ailleurs. Et il fait partie d'un autre cercle, qui est celui des jeunes gens, qui peuvent être là, des intellectuels, des artistes, des ouvriers, des artisans, qui, eux, préparent la révolution. Ce n'est pas du tout le cas d'Hugo. Ces jeunes gens de ces cercles clandestins parfaitement interdits, que fréquente Dumas, ce sont eux qui vont lancer l'affaire. Et Dumas va être sur les barricades, avec une joie bouleversante d'ailleurs, quand il la raconte, c'est extrêmement beau. Et comme il a une grande simplicité, il peut parler à tout le monde, donc il racontera tout ça dans ses mémoires. Et pour lui, cet espoir-là, représenté par ses amis, pour lesquels il a une très grande admiration, Dumas a la fibre admirative, elle va être escroquée et il s'en remettra très mal. Alors, elle a escroqué en 1830, il continue en 1832. Enfin, ce ne sont pas des gens qui se couchent rapidement. Ça demande un courage inouï parce qu'on en meurt quand même. Ou alors on est en prison pendant des années. Bon. C'est ce qui arrive à ses amis. Et il ne s'en remettra pas en réalité. Il gardera son admiration. Splendide pour ces gens en disant voilà, c'est ce qu'on appelait les héros en 1830. Aujourd'hui, on les traite de traîtres. Hugo, lui, il passe à côté. C'est une des caractéristiques assez fascinantes de Hugo, c'est que, je sais pas comment dire, en tant qu'écrivain, il est d'une intelligence magnifique et il est splendidement subversif. En tant qu'homme, il est nul. Et en 1830, il est du côté de l'ordre. gentiment, en disant, mais oui, le peuple, c'est bien le peuple, il a raison le peuple, mais il n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore assez éduqué, il n'a pas encore tout compris, donc il faut attendre, ça viendra. Moi, Dumas, ce n'est pas ça du tout. Et ça se verra. C'est-à-dire que les mousquetaires, c'est vraiment sa légende de 1830. Les Misérables, ça reprendra, effectivement, mais bien plus tard, et sur un tout autre registre.
Oui, parce que là, pour le moment, donc, on se retrouve avec un roi citoyen. Après cette révolution, on n'a pas la République, on a un roi citoyen. Alors, au passage, vous êtes un peu taquine, parce que vous dites... ce qui prouve que nos temps n'ont pas inventé l'oxymore politique.
Ouais.
Je ne sais pas du tout à quoi vous pensez, mais... et puis, enfin, il est vrai que vous écrivez au monde diplomatique, donc peut-être qu'on retrouve certaines choses. Et puis, alors, vous citez... vous citez Karl Marx, mais là, c'est une autre citation... que je fais pour résumer un peu la situation politique en France en 1830. Marx écrit « Après la révolution de juillet, lorsque le banquier libéral Lafitte conduisait en triomphe son compère, le duc d'Orléans, à l'hôtel de ville, donc le duc d'Orléans, c'est le futur roi des Français, il laissa échapper ces mots « À partir d'aujourd'hui commence le règne des banquiers. Lafitte venait de trahir le secret de la révolution. »
Absolument.
Karl Marx. Et on entre alors dans une période plutôt, vous écrivez, plutôt dépressive, enfin en tout cas pour tous ces gens qui vivent dans la nostalgie de 89. Période qui est agitée par des convulsions, des tremblements, des révoltes ou des débuts d'émeutes, enfin voire des émeutes. Hein. 1832, donc les obsèques du général Lamarck, là c'est vraiment un moment où on a l'impression que ça peut basculer. Ça va être très important dans votre récit. Puisque d'une part, ça va nourrir plus tard des scènes fameuses des Misérables de Victor Hugo, et puis parce que c'est très spectaculaire de retrouver Dumas du côté des émeutiers, lui qui est finalement, qui a été un élément actif de la révolution qui a conduit le roi au pouvoir. Et... je reprends la citation que vous avez... Voilà, Dumas écrit « Ceux qui ont fait la révolution de 1830 sont les mêmes hommes qui, 2 ans plus tard, pour la même cause, se firent tuer à Saint-Méry. Seulement cette fois-ci, ils avaient changé de nom, justement parce qu'ils n'avaient pas changé de principe. Au lieu de les appeler des héros, on les appelait des rebelles. Il n'y a que les renégats de toutes les opinions qui ne sont jamais rebelles à aucun pouvoir.
Ouais, »
Ça, c'est du Dumas... Bon,
ouais. Ouais.
C'est du Dumas pur. Et alors à ce moment-là, bah Hugo, toujours pareil, quoi. Il est plutôt légitimiste, lui.
Non, il était légitimiste avant. Là,
oui. Il commence à...
Il est accommodant. Non, il commence à rien du tout.
Mm-hmm.
Non, il est très, très lent. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas synchrone avec lui-même. Hein. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rire. Il écrit un théâtre qui, quand même, est assez formidable. Réellement... qui raconte à peu près que des histoires de régicide, de volonté de régicide. Il passe son temps à avoir des représentations interdites. Il ne comprend pas pourquoi. Fantastique. Il s'agit quand même d'une monarchie. Mais il ne voit pas, il est scandalisé. Hein. Donc là, non, il s'en accommode. Là, c'est même une période où il va devenir particulièrement stupide. D'ailleurs, il le sait, donc il va peu écrire, en réalité. C'est comme une espèce d'endormissement. Alors, il va commencer à s'intéresser un peu à des choses comme politique ou morale, disons plutôt morale que politique. C'est un grand orateur, donc bon, il va faire de grands discours. Enfin, c'est quand même pas vraiment retournant côté prise de position. Même si c'est un homme courageux, ça va, quoi. En gros, ça va. Et alors, quand on lit toutes ces choses vues, parce qu'il n'écrit pas beaucoup, mais il marche beaucoup, il se promène beaucoup, il regarde beaucoup, il note. On voit bien qu'il voit tout, il voit absolument tout ce qu'il y a à voir, mais ça ne produit pas. C'est... Donc, bon, Marx, Lafargue, surtout Lafargue, il a dit beaucoup de mal de Hugo. Ça se comprend, mais c'est le Hugo dans le civil... Et jusqu'à un certain temps. En plus, c'est beau, finalement, de devenir vraiment vif et prendre des risques, alors qu'on a largement dépassé les 50 ans. Enfin, c'est beau. Lafargue le déteste. Moi, je comprends qu'on puisse mépriser d'une certaine manière le Hugo dans le civil pendant une certaine période, mais pas tout, et pas son œuvre. Il y a un moment où il fait son bouleversement, voilà. Mais lui, c'est beaucoup plus tard. Lui, son 30, il n'en a rien à faire. Il dit, ça viendra. Soyez gentils, soyez polis, soyez propres sur vous, et éduquez-vous, et elle va venir, la République.
C'est ça, c'est un peu l'époque des bonnes paroles. Enfin, ça n'a pas. On est toujours un peu là-dedans. Et là, vous citiez par exemple François Guizot, qui était très fort dans ce domaine. Je veux, je cherche et je sers de tous mes efforts la prépondérance politique des classes moyennes en France. Ou encore, évidemment, la phrase fameuse éclairez-vous, enrichissez-vous, améliorez les conditions morales et matérielles de notre France. Voilà les vraies innovations. Et vous faites sans transition, justement, votre phrase suivante est. Le temps est venu des mousquetaires.
Oui.
Et c'est vrai que ça vient comme un bol d'air, finalement, ces mousquetaires, dans cette France qui a pour mettre à penser des gens comme Guizot.
Oui, alors ça vient après. Ça vient après. Il a fallu encaisser quand même, manifestement, laisser travailler finalement cette très profonde mélancolie pour qu'elle devienne autre chose. Mais oui. Parce que les mousquetaires, ce que moi je trouve absolument splendide, c'est que c'est une espèce de transposition de tout ce qui a été rendu impossible par le kidnapping de 1830. C'est-à-dire tout ce que les jeunes gens pouvaient espérer qu'ils n'ont pas. Si on est réaliste, on se dit, on ne l'a pas, puis on ne l'a pas pour longtemps, parce que tout les insurrections, toutes les émeutes, etc., c'était quand même réprimé, mais dans le sang. Hein. Ce ne sont pas des petites affaires, hein. c'est pas juste un petit coup de matraque, hein. C'est on tue. Voilà. Ça doit être horrible de se dire, chaque fois qu'il y a eu du courage pour une cause que je soutiens, on meurt. Voilà, toujours les mêmes qui meurent. Donc, lui, il va partir en réalité de ce désespoir-là. Bon, là pour le moment, je vois pas d'horizon du tout. On en a eu un. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste nous, la camaraderie. C'est pour ça que je parlais de ces cercles, parce que c'était un camarade très actif, Dumas. Il était très actif pour soutenir ses camarades écrivains. Il a énormément soutenu Hugo, qui a pu en avoir besoin. Hein.
Oui.
Dumas était largement aussi connu que Hugo. Et il avait ses camarades politiques. C'est un homme de camaraderie. Donc il nous reste ça. La camaraderie, la loyauté, le goût de la cause perdue, mais qu'on mène jusqu'au bout, avec panache, avec élégance, et aucun souci de l'économie. C'est Guizot. Guizot, non, merci. Il a du mal lui-même. Enfin, il a quand même flambé un maximum, quoi. Il a gagné énormément d'argent. Il a dépensé énormément d'argent. C'est un anti-Louis Philippard. C'était pas le genre à... Et bien, pareil pour sa vie. C'est pas juste la monnaie.
Il en a toujours dépensé plus qu'il n'en a gagné.
Oui, il disait, c'est juste très joli. Il disait, on m'a beaucoup reproché de dépenser tout ça quand il va mourir. Tiens, pourtant, on peut dire... que quand même, je suis arrivée. Je pars comme je suis arrivée, avec un sou en poche. Bon. Et donc, cette absence du sens de l'économie, ce refus de l'économie, de s'économiser soi, c'est ça les mousquetaires, en fait. Ils ne sont pas, eux-mêmes, ce ne sont pas des gens... Pour certains, ils sont un peu discutables. Quoi. Moralement, c'est pas...
Ah oui.
Ah, c'est pas des prix de vertu.
Non, la mort de Milady, c'est pas forcément...
Et le viol de Milady.
Le viol de Milady.
C'est pas mal non plus.
C'est ça.
Il y a plein de choses, on peut dire. Bon, les gars, moyen, quoi. Athos, qui est évidemment le héros. Ouais, c'est un alcoolo de première et qu'il revendique de se croire. C'est pas du tout... C'est pas nous qui le voyons, il le dit. D'ailleurs, il dit que quand il a vraiment, vraiment bu, il est très, très bien. Donc, ce ne sont pas des héros traditionnels, ce ne sont pas des chevaliers. Non, c'est des gens au galop qui brûlent leur vie, parce que c'est ça. Mais avec pas, c'est vrai que c'est formidable de former une bande et de se dire, bon, toi, tu me plais pas toujours, mais t'es dans ma bande, donc on y va. Voilà.
C'est ça. Et puis, l'émeute, vous dites, les trois mousquetaires, c'est une émeute à quatre.
Ouais.
Et ça, c'est une très belle
formule. Oui, parce que ce sont des porteurs de désordre. Comme le truc, c'est contre l'ordre.
C'est ça.
Ils sèment la perturbation absolument partout.
Ils ont leurs propres critères et leurs propres droitures par rapport à ce qu'ils ont choisi de rendre prioritaire. Quoi.
Exactement.
Plutôt que de respecter strictement les instructions.
Ah oui, ça, ils ne respectent rien du tout. Et les causes qu'ils soutiennent, au fond, peu importe. C'est presque au feeling, en réalité.
Oui,
c'est comment on la soutient.
Et alors, quel est l'accueil critique des trois mousquetaires? Comment le pays reçoit, enfin surtout la République des Lettres, enfin c'est pas encore une république, mais comment il est reçu, le livre?
Je crois que ça n'intéresse pas un monde fou, hein.
Mais vous citez des réactions assez négatives de Zola, par exemple.
Mais c'est après. Ah oui, d'accord.
Oui,
excusez-moi, je pensais que c'était...
Ah, je ne pensais pas à l'accueil du public, je pensais plutôt à celui des...
Ah non, après, non, non. C'est vraiment... C'est un livre fait pour, je ne sais pas, la concierge...
C'est ça,
la boniche, enfin, il y a un côté comme ça. Enfin, c'est d'un mépris, mais absolument stupéfiant. Hein.
Alors qu'il y a des pages sublimes dans tout le cycle, en fait.
Oui.
Je me souviens de Pivot qui avait accueilli, je crois, je ne sais pas si c'était apostrophe, enfin, ce jour-là, sur le plateau, il devait y avoir Cavana et voilà, et je ne sais plus quel était l'écrivain qui a fait un compliment à Cavana, parce que Cavana, ça doit être dans l'Hérital, raconte la mort de son père. Et l'écrivain qui fait ce compliment, je ne sais plus qui c'était, lui dit, écoutez, vous avez écrit une des deux plus belles morts de la littérature française, il y a celle-là, et puis, bien sûr, la mort de Porthos dans Le Vicomte de Bragelonne, qui était absolument... Mais ça, c'est vrai que on a du mal à lire ça sans verser une larme.
Oui,
quoi.
Oui.
Oui. Et d'ailleurs, Dumas avait beaucoup pleuré. Son fils l'avait trouvé chez lui ce jour-là, il rentre et Dumas était en pleurs... et son fils s'inquiète de savoir si un drame s'est produit, et il lui dit, ah ben j'ai tué Porthos. Il le fallait, j'étais obligé. Or, Porthos, c'est vrai que c'est un peu lui, quoi. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie.
Oui.
D'accord. Alors, ensuite, on va avancer un peu, vous arrivez au chapitre que vous appelez Les Aubes de 1848, et là vous écrivez, Victor Hugo est affligeant. En 48. C'est-à-dire, c'est les aubes de 48, donc on est encore avant la révolution de 48. Et vous écrivez aussi, il est toujours fascinant de voir comment un écrivain, un vrai, pas un faiseur de volume dessiné, a attrapé un joli petit prix, il est toujours plus grand que ce qu'il est dans le civil, c'est ce que vous venez de dire,
oui.
Toujours plus intelligent dans ce qu'il écrit que dans ce qu'il pense dans la vie, le contraire des littérateurs qui savent toujours ce qu'ils font.
Ouais.
Mais Hugo n'est pas encore du côté des misérables ou des dépossédés, quoi.
Non. Il laisse, mais il sait pas encore qui il est, quoi. C'est un drôle de bonhomme, quoi. Parce que quand même, bon, c'est un chef-d'œuvre absolu, les misérables. Qu'on aime ou pas, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un monde verbal absolument incroyable. Il aura passé sa vie à préparer ça et à croire qu'il parlait d'autre chose. C'est une chose étrange, cette longue léthargie. Alors, il est possible aussi que ce qu'il l'ait fait bouger... C'est un homme en exil, hein, en réalité, bien avant d'être en exil réel. Il est en exil. Ils le sont tous en exil. Comme je suppose on peut se sentir aujourd'hui en exil. Dans notre pays, voilà, dans mon pays, moi-même. Bon,
Baudelaire, enfin, j'anticipe,
mais absolument. Absolument. Alors, Baudelaire le sait.
Oui.
Lui, il le sait. Oui. Les romantiques le savent. Ils le savent, mais ils en font, comment dire, ils en font un thème. Hugo, il est en exil de tout. Et en même temps, un carriériste, étrange chose. Mais il est en exil. Il est en exil dès le départ. On va pas faire de la psychologie de comptoir, encore que parfois c'est pas inintéressant, mais le quand même quoi. Il a une mère qui était du côté de la Révolution, mais qui était la maîtresse d'un monarchiste conspirateur. Bon. Un père pas mal absent, qui lui était dans les armées de la Révolution, mais qui s'accommodera des différents changements. Bon, il est là-dedans quand même, il est tout de suite dans la mort. Hein, la mère est fugée. Il est cerné par la folie. Il le sait, je suppose qu'il la sent. Ça aussi, ça fait de l'exil. Il sera beaucoup quand même sur les pouvoirs de l'imaginaire. Tout ce que ça produit, il sera beaucoup sur les fantômes. En lui. Et la mort de sa fille, la folie de son autre fille, bon, la folie de son frère, c'est beaucoup. Alors, il y a ce côté muraille, avec quelques... Ce ne sont même pas des lézardes, hein, parce que s'intéresser au travail des enfants, être contre la peine de mort, tout ça, c'était quand même dans une partie de l'air du temps. Donc lui monte au créneau vaillamment, brillamment même, mais c'est pas pour autant. Il est bouleversé par le par la voilà l'injustice. Bon ben on connaît ça. Le côté pleurer sur le fait que ça va pas. Bon, c'est pas ce qu'il va faire de vous, ni une tête politique, ni un révolutionnaire. C'est juste être un peu humain. Donc il est là-dedans. Donc je dis, c'est cet exil aussi par rapport à ce qu'il écrit. Quoi. Il écrit autre chose bon, que ses bons sentiments. Et il lui faudra plus que 48 pour bouger. Il faudra plus que cette révolution-là, qui est pourtant une révolution déterminante. Lui, il est encore décalé. Il lui faut encore 3 ans pour yep, ça y est. Enfin, il est réuni. Une fois qu'il est en exil physique, enfin, il a tout. Donc, il n'est plus le Victor Hugo. Enfin, c'est comme disait Peggy, un peu méchamment quand même, le vicomte Hugo. C'est fini. Il est l'organisateur de tout ce monde de misère et de grandeur, voilà, qui va donner les misérables.
Voilà, il n'est plus le père de France. Il est.
Voilà. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Hein.
Ouais.
C'est ce qu'il dit. Il s'y finit, le père de France.
C'est ça.
Ouais, ça fait. Hein
ouais, Et il fait le choix du roman, dont vous soulignez que ce n'est pas forcément le haut de la pyramide du chic culturel à ce moment-là.
Non, pas du tout. Non. Ce qui a quand même été longtemps mieux, c'est quand même la poésie. Hein. Mmh. Incroyable. Hein, mmh. La poésie, le théâtre. Le roman, c'est venu un peu avec Walter Scott, tout ça. Mais ça va monter au fur et à mesure que les journaux arrivent. Parce que là, les feuilletons, là, tout ça. Bon, donc là, il y a une production romanesque qui fait vivre les auteurs. Et probablement... On change probablement aussi de lectorat. Je pense qu'il est probable qu'on élargit le lectorat. Donc, mais enfin, c'est quand même pas le plus chic du plus chic. Surtout avec une forme feuilletonesque, comme celle des Misérables.
C'est ça, oui. Alors, vous avez cité tout à l'heure... vous avez évoqué le fait que vous aviez sauté un peu, quand vous étiez enfant, le passage sur Waterloo. Là, vous ne le faites pas. Vous citez justement ce moment-là. Je vais lire quelques lignes parce que c'est vrai... On a besoin d'entendre un peu de Hugo à propos du mot de Cambronne. Et c'est quand même... Moi, j'avais oublié ce passage. C'est vrai que ça... Le lecteur français voulant être respecté, le plus beau mot peut-être qu'un Français ait jamais dit, ne peut lui être répété. Défense de déposer du sublime dans l'histoire. À nos risques et périls, nous enfreignons cette défense. Donc, parmi tous ces géants, il y eut un titan, Cambronne. Dire ce mot et mourir ensuite, quoi de plus grand ? Car c'est mourir que de le vouloir, et ce n'est pas la faute de cet homme si, mitraillé, il a survécu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, ce n'est pas Napoléon en déroute, ce n'est pas Wellington, plié en 4 heures, désespéré à 5, ce n'est pas Blücher qui ne s'est point battu. L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c'est Cambronne. Foudroyer d'un tel mot le tonnerre qui vous tue, c'est vaincre. C'est l'insulte à la foudre, cela atteint la grandeur échiléenne, Cette parole du dédain titanique, Cambronne ne la jette pas seulement à l'Europe au nom de l'Empire, ce serait peu, il la jette au passé au nom de la Révolution.
Ouais, c'est magnifique.
C'est un peu difficile de commenter. Et ça, c'est effectivement. On sent bien, pour écrire ces lignes-là, enfin, on se rallie à votre thèse, enfin, je ne sais pas si c'est votre thèse, mais d'une lente métamorphose, quoi, de quelque chose qui. Hugo n'aurait pas pu écrire ça, jeune homme, quoi.
Il n'aurait pas
lui qui était fils de général d'Empire.
Ouais. D'être fils de général de tout. Hein, parce que c'est une des caractéristiques aussi des parents. C'est que souvent, ils sont passés d'un régime à l'autre sans faire trop de complications. Quoi. Et ça, c'est. Et là, ce qui est très très beau, c'est qu'il reprend tout le siècle. Parce que en saluant, au début, finalement, des Misérables, le Cambronne, en saluant le mot ordurier, il ouvre les Misérables. Parce que les Misérables, c'est aussi l'égout, c'est aussi le forçat, c'est aussi l'ordure. Et il salue les barricades. C'est le côté, l'adieu. C'est ça le sublime.
Alors le livre sort, puisque Hugo n'est pas en France et ne peut pas l'être, il sort en Belgique. Ce que je ne sais pas, et je ne sais pas si vous le dites, ici en France on le lit ou comment ça se passe
Oui, oui.
Mais donc on a le droit de le commercialiser, ça c'est une chose que je ne... Ou alors c'est sous le manteau peut-être, je ne sais pas trop comment ça marche.
Non, ça va, c'est bon là.
Oui.
Ça va, c'est bon. Et il le commercialise. Il y a une première édition qui est chère.
Oui.
Qui est chère. Donc les gens se cotisent pour l'acheter à plusieurs, donc faire tourner. Ça, c'est pas mal, ces habitudes.
Oui.
Ou un qui achète, et puis ça. Voilà. Et après, il demande qu'il y ait une édition beaucoup moins chère. Justement. Et ça marche très, très bien. Populaire,
voilà. Ouais. Et alors, du point de vue de ses pairs, enfin des hommes de lettres, là encore, l'accueil n'est pas extrêmement...
pas très chaleureux.
Chaleureux, oui, c'est ça, on peut dire. Ouais. C'est très rude. Hein,
Oui, c'est très rude. C'est intéressant. Hein. Parce que moi, je trouve ça très, très intéressant. Justement, alors, au fond, peut-être le plus intelligent, c'est Lamartine. Ah, ou Dumas aussi. Dumas dit aussi quelque chose que j'ai trouvé remarquable, d'intelligence. Parce qu'elle dit, en gros, c'est... enfin, alors, Lamartine dit, ouais, ils leur promettent ces choses-là au peuple, ils vont finir par le croire, ça va être très dangereux. c'est quand même très, très futé. Et Dumas, lui, l'attaque, alors que Dumas a toujours été un soutien de Hugo, et Hugo toujours un soutien de Dumas. Et là, Dumas dit... Il y a un problème avec le style.
Oui.
Ça, c'est... Problème de fond. Ça, c'est un problème de fond.
Oui, il parle d'éblouissement stylaire.
Ouais, c'est beau, d'ailleurs. Hein. Ouais, l'éblouissement stylaire. Alors, c'est un peu... il y a le côté ébloui. Hein.
Oui, c'est ça.
Tu ne revois pas tout.
Comme si Hugo s'était perdu dans le style.
Ouais. Mais tu penses qu'il y a aussi quelque chose par rapport à... C'est trop, quoi. C'est trop. Mais... Pourquoi ? C'est jamais trop. Rien n'est jamais trop pour le peuple. Enfin, c'est il y a des gens qui écrivent aujourd'hui pour le... Bah, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Enfin, on ne dit plus le peuple. Enfin, les invisibles. Les exclus, les pas représentés, les envois.
Certains disent les dépossédés, mot que vous utilisez d'ailleurs.
Ouais. Moins.
Ouais. Non,
mais bon, disons ça. Et il y a une écriture qui se veut extrêmement neutre. En gros, pour qu'ils comprennent tout.
Oui.
Moi, ça me choque horriblement.
Oui, ça, c'est une des idées qui sous-tend tout votre livre, je pense. Oui.
Ils ont droit à tout. On a droit à toutes les splendeurs. Après, on se débrouille avec. On prend selon ce qu'on est, on sera ébloui à retardement ou on ne le sera pas. Mais c'est quoi ce principe qu'il faut écrire pour le peuple? C'est horrible.
Oui, alors vous écrivez, cette littérature n'est pas populiste. D'ailleurs, au passage, ça soulève une question sur la littérature populiste qui n'a pas forcément le même sens que le mot dans le... Typiquement, il y avait un prix du roman oui. populiste qui est qu'Hôtel du Nord, je crois, a reçu, ou des livres comme ça. Mais, oui. Mais là, vous oui. utilisez le mot populiste au sens moderne.
Un peu les deux, quoi.
Un peu les deux.
Ça, c'est vrai, vous avez raison. C'est quand même... oui, c'est quand même... Pour dire, c'est pas, ça ne cherche pas à faire peuple. Ça ne cherche pas à coller à l'image que la bourgeoisie se fait de l'attente du peuple. Voilà. C'est ça, c'est dans ce sens-là.
C'est ça, d'accord. Alors, effectivement, la réaction de Dumas est un peu étonnante, mais il faut dire aussi que bien qu'il soit né la même année... avec Hugo, d'une certaine manière, ils n'ont pas le même âge. Enfin, leurs vies ne se sont pas déroulées du tout de la même manière. Et on peut dire, Dumas est plus proche de la fin, du déclin. Enfin, il est.
Oui.
Et alors qu'on a l'impression chez Hugo, au contraire, qu'il acquiert une forme de plénitude. Et ça fait déjà pas mal d'années que Dumas est plus en retrait par rapport au, disons, aux révolutions, ou alors, bon, il a aussi toujours ce goût de la révolution, il va se battre avec Garibaldi, donc il continue quand même à faire...
Non, c'est
des...
pas rien.
C'est
non,
vrai.
C'est pas rien. Non, effectivement, il s'éloigne.
Ouais,
il s'éloigne. Il revient un peu en... Non, il a été cassé par 30, par la révolution.
Ouais, ouais.
Il revient un peu en 48, hein, mais comme il s'est fait vraiment virer aux élections, il se présente aux élections, hein. Ça marche
oui,
pas, du
non,
tout.
Pas du tout.
Et il retrouve pas, c'est plus son monde, c'est plus son monde, c'est plus son monde. Et donc il va trouver son monde avec Garibaldi. Où là, il n'a plus vraiment... Bon, il écrit encore un peu, mais pas énormément. Parce qu'il se voue, comme Byron, hein, à cette cause-là, l'indépendance italienne. Donc il met, je ne sais pas s'il met de l'argent, parce que je ne sais pas s'il en a encore à ce moment-là, mais en tout cas, il met toute son énergie.
Il arrive à mobiliser de l'argent. Des fois, il arrive à trouver de l'argent quand il... C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Vous disiez tout à l'heure, il était toujours proche de ses frères de différents cercles, mais de ses sœurs aussi. Moi, je pense à Marie Dorval, enfin...
Ah oui, ça, c'est très
ce qu'il
très
a
beau.
Fait pour elle, ouais. C'est un camarade, c'est un frère, il est fidèle.
Oui.
Il est fidèle, ouais. Donc c'est un mousquetaire, il n'y a pas de doute.
Ah oui, oui, oui. Et il ne juge pas. Il ne juge pas ses camarades, en tout cas.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Il est toujours très malheureux quand on le juge ou quand il se sent jugé par eux. Ouais. Typiquement, quand même, Hugo, des fois, a eu des mots un peu plus durs pour lui et ça lui a toujours fait de la peine. Enfin, parce que c'est le...
Oui, mais bon, en même temps, Hugo, il a compris ce que c'était, ouais. Dumas. Après tout, c'est quand même Dumas qui invente le théâtre romantique.
Alors, je vais juste lire quelques lignes, parce que le temps nous presse maintenant. « Étrange duo avec les mousquetaires », donc ce sont des lignes de vous. « L'un dit que le pouvoir est vil et l'existence étriquée, mais qu'il reste de quoi être beau, contre l'ordre en place, l'ennui, l'injustice, la vie, à l'économie, si on est ensemble. Il reste les forces de vie insurgées. L'autre dit que l'ordre en place massacre, mais qu'on peut ouvrir l'avenir, debout sur les barricades, réel ou mental. » Le peuple lit là ses peines et ses puissances, et sème et se fortifie dans ses peines et ses puissances. Il aura fallu 3 révolutions pour que se rencontrent le peuple et 2 écrivains. Après, il y a rupture. Le peuple qui se rêve, le peuple qui se sent porteur de révolution, ne trouvera plus de récit à habiter comme une patrie et à adopter comme des souvenirs fabuleux qui poussent à recommencer. Il n'y aura plus, ou presque, cet étrange partage d'imaginaire. Alors, je voudrais peut-être qu'on conclue en commentant ces quelques lignes, parce que vraiment, pour vous, il y a une discontinuité après ces deux livres-là.
Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de très grandes œuvres. Il y aura de très, très grandes œuvres. Mais cette conjonction-là, cette porosité-là, quoi, entre l'imaginaire collectif et l'imaginaire de deux jeunes gens, de 2 écrivains, non, ça ne se retrouvera pas. C'est ça la singularité. Je dis bien, il y aura de très grandes œuvres par la suite, mais qui ne seront... Voilà, c'est fini. Ce hasard, c'est une sorte... Enfin, c'est pas un hasard, quoi, mais le fait que ça se soit passé, parce que 89, 93, etc., voilà, c'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça, si je puis dire. Mais on n'a pas refait 89... On a parfait, on a fait d'autres choses, mais on a parfait. Ce bouleversement-là, il a eu lieu une fois.
Une fois et dans un seul pays, on pourrait même dire, même si d'autres...
Pour le monde entier, ouais, c'est le principe.
C'est ça, voilà, exactement. C'est une révolution universelle.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Alors, ça, je pense que si on a encore un peu de temps, on peut peut-être évoquer... On peut évoquer rapidement Maurice Leblanc, parce que j'ai donc tout à fait à la fin, vous vous dites, bon, c'est quand même encore de la littérature populaire, mais bien sûr, avec des bémols.
Ah oui, parce que c'est pour rire, c'est pour sourire.
C'est ça, un peu comme une... Alors,
ça naît quand même, ça, enfin, ça naît du panache anarchiste, et de ce que portait ce panache anarchiste, qui a été ultra populaire. Une fois qu'ils n'ont plus eu peur, les gens, ils ont adoré. Et c'est ça qui reprend. Leblanc, qui par ailleurs était vraiment un homme de lettres, tout. Hein. Là, c'est bon, fréquentant Mallarmé, etc. Et là, qui reprend. C'est comme une. Je dis pas dégradation, mais comme une espèce de chose un petit peu palote, comme ça, de ce que pouvaient raconter les mousquetaires. Mais sauf que là, il y a. Je sais pas comment dire ça. C'est pour de rire. Et on le sait que c'est pour de rire. Et ce qu'on aime chez Lupin, c'est pas un redresseur de tort, c'est pas ça. C'est son insolence. C'est qu'il continue à représenter quelqu'un qui est contre l'ordre et que ça amuse magnifiquement de ridiculiser les piliers de l'ordre.
Oui, vous avez cette phrase, vous dites « Lupin est un réconfort light ».
Parfois, c'est déjà ça.
Oui. C'est déjà quelque chose, effectivement. Ben, on va rester sur cette conclusion. On vous remercie, Evelyne Pieler. On a été ravis de parler avec vous de Dumas, de Hugo, des Mousquetaires et des Misérables. Nous étions sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Remercie Amazir Amadaïn Guest, qui a assuré la technique aujourd'hui.